Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Monique Kerouac au micro en ce 13 septembre.
Oui, c'est vrai.
Ça va vite, hein? Déjà la mi-septembre.
Oui. Il y a des feuilles qui commencent à changer de couleur.
Ah non, on ne veut pas tout de suite.
Juste un petit peu.
Alors, je suis en compagnie de Marie Lalande.
Oui, bonjour.
Bonjour Marie. Et d'Yvan Deslauriers.
Bonjour Monique.
Et de Maurice Bolduc à la régie.
Bonjour.
Ah, avec sa belle voix grave.
Oui, bonjour.
Alors il verra la mise en onde et au choix de la musique qui nous plaît. Alors Marie, quel sujet vous abordez aujourd'hui?
Moi je vous parle de décrochage aujourd'hui. Je vous présente deux textes qui parlent de décrochage.
On s'en va chez nous.
On décroche. Non, de décrochage scolaire,
oui.
Précisons-le.
D'accord.
Ce qui l'explique est en fait des caractéristiques des décrocheurs.
Ah, d'accord.
Oui.
Alors, on espère qu'on va avoir des solutions pour ne pas qu'ils décrochent.
On espère ça,
c'est ça?
Oui.
Yvan, de votre côté?
De mon côté, on a un fils qui est étudiant en kinésiologie.
Oui.
Et il y avait un bel article dans la presse d'hier que je vais essayer de vous résumer, d'une part.
Oui.
Et d'autre part, cet été, malheureusement, il y a un alpiniste québécois, Serge Dessureau, qui est décédé.
Oui.
Et je vous lis un texte de réflexion à ce sujet-là.
D'accord. Alors, de mon côté, je parlerai d'abord techno. Pouvez-vous imaginer débattre avec un robot?
Débattre
avec un robot.
Aujourd'hui, là.
En tout cas, je vais...
Le soir du débat,
ben,
là.
N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas un bon choix? Et ensuite, je vous parlerai de, dans le même esprit, en fait, pas dans le même esprit, mais sur le plan technologique, des courriels de bureau et la vie familiale. Comment on compose avec tout ça? Et ensuite, pourquoi retourner sur la Lune?
Pourquoi?
Pourquoi?
On se le demande.
On se le demande.
Ou pourquoi pas.
Ou pourquoi pas. Voilà. Mmh. Alors, c'est ce que je vais vous raconter. Alors, c'est parti. Alors, Marie, un premier article sur le décrochage scolaire.
Oui, alors, 6 facteurs qui influencent le parcours scolaire des décrocheurs. C'est Marc-Antoine Boudreau qui a écrit ce texte et on peut le trouver, le texte, sur le site RIRE, le RIRE. C'est le Réseau d'information pour la réussite scolaire. Et c'est un texte qui a été publié le 4 septembre.
Et donc, c'est au début... tout sexe confondu, là. C'est,
Ici, oui.
Oui, d'accord.
Ici, oui, tout à fait. Le prochain, on va mettre l'accent sur les garçons.
D'accord.
Mais pour celui-ci, c'est tout sexe confondu. Alors, on se demande quels sont les facteurs qui influencent le parcours scolaire des décrocheurs ou des élèves qui pensent à décrocher. Pour répondre à cette question, la firme Léger, c'est quand même sérieux, a procédé à un sondage web auprès de 1009 Québécois âgés de 18 à 34 ans. 3 profils d'élèves composaient le groupe sondé, les décrocheurs, les raccrocheurs et les persévérants. Alors, qui sont les persévérants? Ce sont ceux qui ont sérieusement pensé à décrocher, mais qui ne l'ont pas fait. Alors, un bref survol des 6 caractéristiques approfondies dans cette étude. Et on peut aussi consulter la présentation complète des données en allant directement dans le texte publié sur le site RIRE, R-I-R-E. On y trouve un lien cliquable pour avoir accès à toutes les données. La première caractéristique, donc, c'est ce qui touche l'expérience à l'école. Les jeunes interrogés pour ce sondage étaient 2 fois moins à aimer l'école au secondaire qu'au primaire. Alors, ça veut dire qu'ils arrivent les yeux pleins d'étincelles et ils en sortent un peu éteints.
Mm-hmm.
Ils ont réfléchi au décrochage tôt dans leur parcours. 22 % étaient âgés de 13 à 14 ans.
Ah, mon
et
Dieu.
43 % étaient âgés de 15 à 16 ans. Alors, ils pensent beaucoup et tôt.
Mm-hmm.
Un très faible pourcentage, entre 12 et 25 d'entre eux se trouvaient en situation d'échec scolaire. Alors, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils se sentent en échec scolaire qu'ils ont envie de décrocher. La deuxième caractéristique, en tout cas, ce n'est pas majoritairement à cause de ça.
Est-ce qu'on va nous dire pourquoi ils envisagent décrocher ou c'est pas...
C'est une très bonne question, Monique. Je ne sais pas.
Mais dans l'article, on a...
Dans l'article, tu vas voir, oui, il y a des hypothèses, il y a des pistes intéressantes.
D'accord.
La deuxième caractéristique, donc, des décrocheurs, ce sont les facteurs de protection et de risque. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a 53 % de ces jeunes qui ne participaient pas à des activités parascolaires. 45 % ne lisaient pas à la maison. 52 % ont été victimes d'intimidation. Alors, vraiment, tout ça là, qui prend beaucoup de place, donc ce sont les facteurs de protection et de risque. 43 % consommaient des drogues ou de l'alcool. 28 % avaient reçu un diagnostic de trouble d'apprentissage. La troisième caractéristique de ces jeunes décrocheurs, c'est la famille et les amis. Ces jeunes affirment avoir eu des parents qui valorisaient l'école. 93 % des décrocheurs avaient des parents qui valorisaient l'école, qui faisaient un suivi régulier, 66 % et qui aidaient aux devoirs, 56 % Ça, donc, c'est étonnant. Hein?
Oui, parce que l'aide n'aiderait pas.
Pas nécessairement.
C'est pas un facteur qui a l'air discriminatif.
C'est pas ce qui les empêche de décrocher, en tout cas. 51 % disent qu'il y avait des conflits à la maison. Ça, c'est important. La majorité des jeunes interrogés pour le sondage disent qu'ils avaient des amis à l'école, 87 % mais seulement 57 % prétendent que ces amis avaient une opinion favorable de l'école. Donc, avoir des amis qui ont une opinion favorable de l'école, ça, ça aide. Le travail, c'est également un élément important. 46 % des élèves à risque de décrochage travaillaient en moyenne 15 heures par semaine et 39 % d'entre eux déclarent avoir eu de la difficulté à concilier leur travail et leurs études. On ne le dit pas assez souvent. Les persévérants, donc ceux qui ont pensé à décrocher mais qui ne l'ont pas fait, ont reçu plus d'encouragement à poursuivre leurs études de la part de leur employeur que les autres élèves à risque. Donc, quand tout le milieu s'y met, puis qu'on valorise l'école, c'est un facteur d'aide. Les encouragements comptent pour beaucoup également. Les encouragements prodigués par l'entourage font une réelle différence. On rappelle que les persévérants ont reçu plus d'encouragement de la part de personnes signifiantes. Et les raccrocheurs mentionnent que c'est une expérience de travail qui a influencé le plus leur décision de retourner à l'école. Sixième et dernière de ces six caractéristiques liées au décrochage, c'est la communauté. Et en cette période préélectorale, on souhaiterait que cet enjeu rejoigne nos prochains élus. L'étude montre que très peu de décrocheurs ont eu accès à des organismes communautaires et qu'ils sont moins nombreux que les autres élèves à risque à avoir eu accès à des installations pour pratiquer des loisirs. Donc, l'importance du parascolaire dans le monde scolaire.
C'est ça, on revient sur, je pense que c'était le deuxième élément, là.
Oui, tout à fait. La majorité des élèves, soit 69 % croient que la persévérance scolaire est une responsabilité partagée entre les individus et la communauté, mais que la société n'en fait pas assez. Bon, c'est une croyance, là, mais quand même, la perception, ça oriente nos actions, finalement.
Bien sûr.
Et les décrocheurs sont, pour leur part, plus nombreux à croire qu'ils sont les seuls responsables de leurs échecs. Alors, ils se
culpabilisent.
Ils se culpabilisent et la société le fait aussi beaucoup. Alors voilà, c'est un texte de Marc-Antoine Boudreau qu'on peut retrouver pour avoir les données complètes sur le site RIRE, le réseau d'information pour la réussite éducative. C'est un texte qui a été écrit ou publié le 4 septembre dernier.
Merci beaucoup, Marie.
Plaisir.
Alors, Yvan, qu'est-ce qu'un kinésiologue?
Ben oui, qu'est-ce qu'un kinésiologue?
Vous allez nous le raconter.
Oui, oui, ben, on a un fils qui étudie en kinésiologie. C'est un terme qu'on a entendu plus régulièrement si on fréquente des salles de gym, etc.
Alors, entraîneurs devraient être des kinésiologues.
Oui. Alors, c'est un article, c'est deux articles, en fait, de Marie Tison dans la presse d'hier. Donc, à l'origine, c'était des éducateurs physiques qui se chargeaient de tout ce qui touchait l'activité physique. Puis leur formation était surtout axée sur la pédagogie, la gestion de groupe, le développement des enfants. Les kinésiologues sont arrivés avec une approche un peu différente afin de viser une clientèle un peu plus large. puis leur formation est davantage axée sur l'anatomie et la physiologie.
Okay.
Donc, on ne parle pas de kinésiologue nécessairement dans le domaine scolaire. Mm-hmm. C'est plus large. Presque toutes les universités de la province ont maintenant des programmes en kinésiologie. Et dans plusieurs universités, le programme relève de la faculté de médecine parce qu'on y trouve des cours plus poussés en anatomie et mm-hmm. en physiologie de l'effort. Les kinésiologues peuvent s'orienter vers différentes branches. Ils peuvent notamment viser le domaine de la santé, c'est-à-dire travailler avec des personnes handicapées ou souffrant de maux chroniques, ou encore se relevant d'un infarctus pour les aider à faire de l'activité physique. Alors nous, on va au centre EPIC, mm-hmm. qui a été conçu au départ pour aider les gens qui ont des maladies coronariennes.
C'est vrai.
Ils peuvent aussi se spécialiser dans la performance sportive, puis ce sont eux que l'on trouve dans les centres d'entraînement, et qui concoctent les fameux programmes d'entraînement sur mesure. La santé au travail constitue une troisième branche pour les kinésiologues. Alors là, on parle de promotion de la santé en entreprise, d'ajustement de postes de travail, etc. C'est en 1996 que les kinésiologues ont déposé une demande à l'Office des professions du Québec pour la création d'un ordre professionnel, Marie. Parce que les enseignantes, c'est une question qui revient souvent de ce côté-là.
Oui,
c'est
une question, en fait, c'est parce que les enseignants sont assez partagés sur cette question-là.
Sujet. Oui. Alors, pour les kinésiologues, c'est quelque chose d'important, c'est une question de reconnaissance. Ce n'est pas encore arrivé. Il semble que le dossier progresse cependant. En attendant, les gens qui veulent avoir le soutien d'un entraîneur, d'un kinésiologue, peuvent faire référence à la Fédération des kinésiologues du Québec. Et pour en faire partie, il faut absolument avoir un bac.
Oui.
Il faut avoir étudié en kinésiologie. Alors ça,
ce qui protège en quelque sorte le citoyen. Parce que l'objectif, je pense, des ordres professionnels, c'est la protection du citoyen.
Exactement. Alors, une fois qu'on a décrit un peu qu'est-ce que ça fait dans la vie un kinésiologue, mm-hmm. Marie Tison nous proposait un témoignage d'une personne qui s'appelle Vignon Guézo. Je ne suis pas sûr de la prononciation de son nom, c'est G-U-E-Z-O. Mm-hmm. Et lui, dès l'âge de 14 ans, dans les camps de vacances, quand il y a quelqu'un qui se blessait, il était porté à vouloir aller l'aider. Alors, c'était le premier élément. Lui, c'est un ressortissant français qui a voulu se diriger vers la kinésithérapie.
Ah.
Et là-bas, la kinésithérapie, ça s'associe davantage à la physiothérapie qu'à l'activité physique.
Okay.
Alors, il a fait des études préparatoires, mais il n'a pas réussi ses examens d'entrée. Alors, un de ses cousins installé au Canada qui lui a parlé de la kinésiologie. Et là, il s'est préparé en France, il a fait une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, puis il est parti pour Montréal, à l'Université de Montréal, faire son baccalauréat en kinésiologie.
Mm-hmm.
Il a connu sa première expérience de travail dans un centre de conditionnement physique adapté. Il a d'abord travaillé comme bénévole parce qu'il n'avait pas encore son diplôme puis il ne pouvait pas avoir le droit de travailler. Il a fini par y être engagé comme chargé de projet. Et il a côtoyé des kinésiologues qui sont devenus, avec le temps, ses mentors. C'est comme ça qu'il est allé chercher des outils pour travailler avec des gens qui avaient subi des traumatismes crâniens ou qui avaient des problèmes de santé mentale.
Hein?
Il avoue qu'au début, il y a eu un peu de difficulté avec l'idée de travailler avec des personnes qui avaient des handicaps, notamment avec des gens qui étaient auparavant très actifs, et qui se retrouvaient en fauteuil roulant après une lésion de la moelle épinière. Le fait de les côtoyer, de les observer, ça a changé sa perception. Ils peuvent aller au gym tous les jours, ils font confiance, ils font preuve de compétence, beaucoup de joie malgré leur situation, et ça l'a beaucoup influencé, ça l'a frappé. M. Guézo voit maintenant un potentiel chez tous ceux qui arrivent à un centre de réadaptation et qui n'acceptent pas leur nouvel état. Il nous dit qu'il a appris à motiver les autres et à se motiver lui-même. Il a également appris à circuler dans un fauteuil roulant et à se mettre à la place des personnes handicapées afin de mieux adapter les exercices qu'il leur proposait.
Mm-hmm.
Il y a quand même plusieurs défis pour les kinésiologues au moment où on se parle, comme dans bien d'autres catégories de professionnels. Par exemple, ils ont une tendance Je me suis accaparé. Là.
Ils Vous êtes ont devenu tendance... kinésiologue, je
oui,
pense.
Ben, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé, peut-être. Ils ont une tendance à mettre leur cap de super-héros puis de vouloir changer les situations, d'être des sauveurs. Et ils y mettent beaucoup, beaucoup d'énergie au point où leur propre santé psychologique peut être remise en cause. Alors, ils ont frôlé le burn... lui, il a frôlé le burn-out à un certain moment.
En fait, c'est le lot de plusieurs professions.
Oui.
Quand on fait le choix d'y aller parce qu'on veut aider les autres.
Oui, oui, c'est vrai, tout à fait.
C'est le lot de ces professions-là.
Souvent.
Le risque.
Oui, le risque.
Alors, présentement, M. Guezot travaille avec un psychologue pour mettre en place un projet de conférence pour prévenir l'épuisement professionnel. Et là, il revient avec l'idée aussi de l'ordre professionnel parce que, entre autres, les médecins ne prennent pas très, très au sérieux encore présentement le métier de kinésiologue. Alors,
même si ça fait partie de la faculté de médecine.
Même. Alors, il commence à avoir un lien, mais c'est pas encore, on n'est vraiment pas là. Alors, les médecins, ils disent aux gens de faire du sport, d'aller marcher, mais s'ils sont pas bien encadrés, les gens hyper performants, ben ils risquent de se brûler en faisant de l'entraînement. Puis les autres, isolés, de se blesser ou d'abandonner après quelques mois. Alors, c'est un... Puis le dernier point qu'il soulignait dans l'article, c'est que la plupart des assurances tiennent compte des naturopathes, des acupuncteurs, mais ils ne tiennent pas compte des kinésiologues. Alors, d'un point de vue pécunier, ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, ben ils vont s'éloigner de cette possibilité-là.
Mm-hmm.
Alors, c'est un bref tour d'horizon du monde de la kinésiologie qui est un monde qui va probablement prendre plus de place dans notre environnement parce que ce sont des gens qui vont nous aider à mieux s'entraîner puis à vivre une qualité de vie plus intéressante.
Oui, c'est intéressant de voir aussi comment l'aspect multidisciplinaire peut dynamiser aussi ce secteur-là. On pense à la biomécanique.
Absolument.
Toutes les prothèses que les gens peuvent avoir à utiliser,
oui,
ça fait partie. Donc, polytechnique, etc.
Puis tu n'as pas parlé qu'on pouvait en produire avec des imprimantes en trois dimensions la semaine dernière?
Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Yvan.
Ils mènent une vie sans excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capital santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool, elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre désucrifié. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge qu'elle combine avec un doux gommage qui restructure en profondeur les macromolécules en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles, bien en vue dans le salon. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel, le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit à de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des doutes sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. J'ai tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Allez. resto, boire des apéros à notre santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros.
Benabar, à notre santé.
Merci beaucoup, Maurice. Alors, comme je vous l'annonçais, un petit volet techno. Alors, je commence par un article.
Je pensais que c'était un volet débat.
Ah oui, ben oui, mais dans le sujet techno. Mm-hmm. Alors, c'est un article de Catherine Matisse pour la revue Québec Science de septembre 2018 et il s'intitule « Le débat ne fait que commencer ». Alors, on le sait, dans nos sociétés démocratiques, l'art du débat est quand même important. Mm-hmm. À la preuve, ce soir, on aura le débat des chefs. Alors, et ça remonte, semble-t-il, à Aristote. Hein? On cherche à convaincre l'autre à l'aide des meilleurs arguments. Mm-hmm. Uh-huh. Et ça, c'est en se confrontant, en fait, à des opinions très différentes de la nôtre qu'on obtient, semble-t-il, si on écoute bien l'autre, une vue d'ensemble plus éclairée de la société. Alors, il semble que maintenant, cette habileté, ce n'est pas l'apanage exclusif de l'humain. Eh oui, il y a une machine qui peut désormais débattre avec nous. Oui, alors il y a IBM, en fait, s'est lancé et a produit un « Project Debater ». C'est une technologie qui est basée, vous le devinez, sur l'intelligence artificielle. Bien Je sûr. Pense qu'on en parle presque toutes les semaines, dont le but est de permettre à l'humain de prendre de meilleures décisions. Donc, l'intention est bonne au point de départ. Alors, et c'est, comme je disais, c'est le prochain jalon là, important en matière d'intelligence artificielle. Alors, contrairement aux assistants vocaux qu'on intègre, semble-t-il, de plus en plus dans nos maisons, en tout cas pas chez nous, c'est créé pour exécuter des tâches spécifiques, hein, tant quand on parle à Google, Alexia ou des choses comme ça, alors que ce robot débatteur va explorer un territoire très différent, c'est-à-dire celui des conversations plus longues et plus complexes, en développant des arguments impartiaux sur des sujets qui n'ont pas nécessairement des réponses claires ou tranchées. Alors, en juin dernier, après 5 ans de travail, Project Debater a pu faire une démonstration d'art oratoire contre deux humains. Alors, les sujets de la joute ont été donnés sur place. Hein? Personne n'a pu se préparer. Le premier sujet, c'était l'intérêt d'investir des dollars publics dans la conquête de l'espace. Alors, ce dont je vous parlerai
oui,
dans
on,
le dernier
on prépare
article.
Un article là,
c'est ça. Ainsi que l'utilité de la pertinence de la télémédecine. Alors, comme je disais, ces thèmes n'ont pas été révélés à l'avance aux débatteurs humains, pas plus qu'à la machine. Alors, il fallait voir, donc, elle savait écouter aussi et s'adapter et donner une réponse juste.
La machine.
Oui, oui, oui. Et parfois même, elle faisait des blagues quand venait le temps de répliquer. Pouvez-vous imaginer?
C'est fascinant.
Alors, grâce à la conversion de la parole au texte, elle pouvait identifier les concepts clés de l'adversaire et se préparer à les réfuter. Mm-hmm. Alors, le résultat.
Oui, on a. Ah,
dans les deux débats, l'auditoire était composé des employés d'IBM et ils ont voté en faveur de
la machine
pour la quantité d'informations transmises et ils l'ont même trouvé très persuasif. Mais c'est fou, plus que l'humain,
mais
en fait.
Parce que la machine, elle a accès à toute une série d'informations.
Ben, elle va aller chercher l'information par des mots-clés, j'imagine.
Ouais.
Alors, au final, la machine est bien impressionnante, mais il reste à, semble-t-il, raffiner la rhétorique, le style et la maîtrise de la culture humaine. Parce qu'on se rappellera que pour Aristote, il y a trois choses qui nous poussent à avoir confiance en l'orateur. Le bon sens, la vertu et la bienveillance. Mmh. Alors, la machine peut-être aller se rhabiller, on ne sait pas trop.
Un peu.
Un petit peu. Alors voilà, c'était mon premier sujet.
Ah.
Et le deuxième, cette fois, c'est un texte d'Alain Labelle pour le journal Info Radio-Canada. Et ça s'intitule, c'était du 13 août dernier, et ça s'intitule « Quand les courriels du bureau deviennent un problème à la maison ». En fait, il y a un professeur de Pamplin College qui est, of Business qui est en Virginie qui affirme que si on a trop de règles flexibles au travail, ça mène souvent à une absence de règles et que les exigences opposées de la vie professionnelle et de la vie privée posent des dilemmes aux employés et déclenchent souvent des sentiments d'anxiété et mettent en danger le travail et la vie personnelle. Alors, actuellement, on le sait, de nos jours, les employés doivent continuellement franchir des frontières de plus en plus complexes entre la famille et le travail. Les attentes des employeurs en dehors des heures de travail semblent accroître ce facteur-là, parce que les employés arrivent à la maison et ils ont pas le rôle, ils ont le rôle de parents normalement, puis tout d'un coup, faudra qu'ils passent au rôle de travailleurs. Alors, d'autres études ont déjà montré que le stress lié à l'augmentation des exigences professionnelles entraîne des tensions et des conflits dans les relations familiales parce que l'individu est incapable de maintenir son rôle requis à la maison. Alors, il faudrait, en fait, contrairement aux exigences liées aux heures supplémentaires, travailler au bureau, ça épuise physiquement et psychologiquement. L'impact est insidieux de la culture organisationnelle, voulant qu'un employé soit toujours prêt et souvent déguisé en avantage. Alors, les limites flexibles du travail, comme je le disais, se transforment souvent en limites confrontant la santé et le bien-être de l'employé et de la famille. Notre chercheur, M. Becker, affirme que l'élaboration de politiques qui réduisent les attentes des patrons en matière de communication électronique à l'extérieur du travail serait idéale. Alors, ce serait de limiter, en fait, le nombre de courriels que l'on a à consulter et probablement à des moments précis pour ne pas que ce soit en continu.
En piètre contexte.
Oui, exactement. Donc, c'était un texte d'Alain Labelle pour le site Info Radio-Canada du 13 août dernier. Et je pense que nous sommes à quelques minutes de la pause. Donc,
quelques secondes.
Revenons après la pause. On parlera encore de décrochage, on parlera de montagne et on parlera de la lune. Alors, à tout à l'heure!
Je vais jouer en faisant semblant. moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mais là, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera.
Spectacle 1, 2, 3, Soleil, c'était Rachid Taha, Khaled et Faudel. Rachid Taha, que l'on salue comme d'habitude.
Merci Maurice, c'est une belle pensée. On apprécie. Mm. Yvan, la montagne est parfois dure pour les humains.
Oui, c'est un peu. C'est à la base de la réflexion que Mylène Paquette nous propose dans le magazine Espace de septembre 2018. Ça s'intitule « Le rêve vivant de la montagne » et cette fois-ci, je ne vous le résume pas, je vous le lis dans son intégralité. Le 7 juillet 2018, une image fait la une des nouvelles. C'est la photo d'un homme dans la cinquantaine, souriant et heureux. Il semble radieux, épanoui. Cette photo, c'est celle de Serge Dessureau, l'alpiniste québécois qui a fait une chute mortelle sur le K2 en tentant d'en gagner le sommet. Ceux et celles à qui il est inconnu découvrent alors son existence. Pour les autres, c'est la consternation. Apprendre qu'un proche est disparu en montagne a de quoi secouer l'esprit. La nouvelle est difficile à comprendre et à accepter. Les questions demeurent en suspens, les réponses viendront sans doute avec le temps. Je ne vous parlerai pas de Serge, que je ne connaissais que de réputation, mais je peux vous parler du feu qui habite l'homme et qui le motivait à poursuivre la réalisation de cet exploit. Tout le monde ne peut pas comprendre la passion qu'entretiennent certains alpinistes pour la haute montagne. D'abord, plusieurs réalités de ce type d'aventure en rebutent plus d'un : le froid, le manque d'oxygène, le vertige. Ensuite, le désir d'accomplissement est moins présent ou s'exprime dans des champs d'activité plus terre-à-terre chez d'autres. Cependant, tous rêvent de s'accomplir, de se réaliser et d'atteindre un objectif plus ou moins grandiose au cours de leur existence. Bien souvent, on se contente de caresser ses rêves et on ne s'autorise pas à aller plus loin parce que le coût en énergie à déployer dépasse grandement le bénéfice que l'on pourrait en retirer en les réalisant. Alors, on fait des choix. Si les aventures diffèrent, les chemins qui y mènent sont similaires puisqu'ils promettent bien des découvertes. Celles-ci ne sont pas qu'extérieures, la beauté de la montagne, de l'océan ou des éléments, et s'avère parfois bien plus personnel. On en apprend ainsi davantage sur soi-même grâce à tous les passages obligés de la route, dont les rencontres humaines. Cette année seulement, une soixantaine d'alpinistes feront le choix de quitter leur foyer pour tenter de toucher le sommet du K2, en sachant très bien qu'ils pourraient ne pas en revenir. Malgré les risques élevés de s'attaquer au deuxième plus haut sommet du globe, ces adeptes de la montagne trouveront une façon de persuader leurs proches de les laisser partir.
C'est maîtriser la peur aussi. Hein. Mm-hmm. En tout cas, moi, je pense à ça. J'ai peur. Tout simplement.
Sans être directement impliqué. Hein.
Oui, exact.
S'ils en sont capables, c'est que la passion qui brûle en eux doit être immense et absolue.
Oui.
Ça répond un peu à ta question.
Oui.
Vraisemblablement, cette quête de découverte est plus grande que nature. Mais qu'est-ce qui les motive malgré le danger qui les guette?
Mm-hmm.
Un alpiniste peut s'évertuer à décrire l'appel qu'il ressent de la montagne. Un autre peut révéler en détail sa première rencontre avec la paroi ou expliquer toutes les sensations qui l'habitent lorsqu'il vit sa passion. Chacun s'efforcera de trouver une justification morale pour tenter sa chance dans cet univers où la vie est l'enjeu constant de la partie. Mais les motivations profondes qui nous poussent à atteindre de grands objectifs sont souvent imperceptibles, même par nous-mêmes, au moment du départ. Car c'est en route vers l'accomplissement de sa volonté que l'on explore et découvre des aspects de soi-même jusque-là insoupçonnés et qui sont mis à l'épreuve autant en relation avec soi-même qu'avec les autres. Combien d'alpinistes ont renoncé au sommet pour venir en aide à un inconnu en difficulté?
Mm-hmm.
C'est le chemin qui mène au sommet qui nous permet de nous élever en tant qu'humains.
Donc, ce n'est pas la finalité.
C'est, oui, exactement. C'est toutes sortes de façons différentes de dire la même chose.
Oui.
Et c'est à cause de toutes ces fois où l'on renonce au sommet que la montagne est si immense. Pour que la victoire existe, il faut que la possibilité de perdre la partie soit présente. C'est un simple rapport de force. Plus le défi est grand, plus les chances de le réaliser sont minces et plus il y a de risques de renoncer, d'abandonner ou de perdre. Parfois même, ce que l'on a de plus cher. Le 7 juillet dernier, Serge était sûrement comblé en gravissant la montagne qui l'attendait. Ce jour-là, il a mesuré chaque geste, chaque déplacement, chaque mouvement. Et bien malgré lui, un faux pas l'a emporté. Mais ce jour-là, Serge était heureux d'être sur la montagne à vivre pleinement une expérience à laquelle il rêvait depuis si longtemps. Le bonheur d'être là était plus grand que tous les écueils de son parcours. « Le sport, c'est ce qui me tient en vie », avait-il dit en entrevue à Salut Bonjour le 18 octobre 2017. Vous savez quoi? Je ne pense pas qu'on doit voir la montagne comme quelque chose qui emporte ses passionnés. Je crois qu'il faut la voir comme une entité qui les fait vivre, qui leur insuffle l'élan qui les rend aussi vivants.
Mm-hmm.
Alors, c'était la réflexion de Mylène Paquette, qui elle-même a connu des aventures difficiles, dans le magazine Espace de septembre 2018. Ça s'intitule « Le rêve vivant de la montagne ».
Merci beaucoup, Yvan. Alors Marie, maintenant des solutions pour le décrochage, mais des garçons cette fois. On est très spécifique.
Effectivement, 10 solutions pour contrer le décrochage scolaire chez les garçons.
Mm-hmm.
C'est un texte qu'a écrit Daphné Dionvien. Ça a été publié dans le Journal de Québec le 1er septembre. Et j'ajoute que le Journal de Québec a publié dans les jours qui suivent, qui ont suivi le 1er septembre, plusieurs développements de ces 10 idées.
Ah, d'accord. Alors, on a détaillé
chacune de ces solutions dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, alors que le décrochage scolaire des garçons suscite l'inquiétude, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, 6 des plus grands experts du milieu de l'éducation au Québec proposent 10 solutions concrètes pour corriger le tir. Même si la lutte au décrochage scolaire s'est intensifiée dans les écoles québécoises au cours des dernières années, le portrait demeure très différent selon le sexe. À l'échelle canadienne, c'est au Québec où l'écart entre le taux de diplomation des garçons et des filles est le plus grand, la différence étant même trois fois plus élevée que dans la plupart des autres provinces, selon un rapport publié ce printemps par l'Institut du Québec. Et Gilles Droyer, que je cite souvent, professeur en adaptation scolaire à l'Université Laval, n'hésite pas, lui, à parler d'un problème de sous-scolarisation des hommes. C'est sa vision à Égide Royer. Lui, il voit ça au Québec, alors que l'écart selon le sexe entre les diplômés cégepiens et universitaires ne cesse de s'accentuer. Donc, il y a de plus en plus de filles que de garçons qui réussissent. Or, des solutions existent, certaines ayant déjà fait leurs preuves dans des écoles au Québec ou ailleurs dans le monde. Et pour les identifier, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Journal de Québec a consulté un panel d'experts québécois composé de 6 spécialistes de la réussite scolaire. Certains sont même parfois appelés à agir comme experts conseils par des gouvernements étrangers. Et il s'agit de Monique Brodeur, qui est doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation à l'UQAM, Michel Perron, qui lui est professeur retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi, Véronique Dupéré, qui est professeur à l'École de psychoéducation à l'Université de Montréal, Pierre Potvin, qui est professeur en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Michel Janos, que vous connaissez bien, Monique.
Oui, très bien.
Professeur à l'École de psychoéducation à l'Université de Montréal, et Gilles Royer, que j'ai cité tout à l'heure, qui, lui, est en adaptation scolaire à l'Université Laval. Mm-hmm. Et donc, ça a fait permis de ressortir 10 mesures concrètes, et je le disais que ça a été détaillé dans des articles subséquents la semaine dernière. Plusieurs membres du panel d'experts ont tenu à souligner qu'il n'existe pas nécessairement de mesures qui permettent spécifiquement aux garçons de mieux réussir, selon la recherche en éducation. Les ingrédients qui ont fait leur preuve sont bénéfiques pour tout le monde, mais ce sont souvent les garçons qui en bénéficieront le plus, puisque leur retard est plus grand. Des experts réclament un plan d'action portant spécifiquement sur la réussite des garçons, ce qui permettrait de mettre l'accent sur des approches différentes en fonction des besoins. Mettre la loupe sur les problèmes des garçons à l'école est toutefois loin de faire l'unanimité sur la place publique, certains craignant que des initiatives spécifiques ne se fassent au détriment des filles. Michel Janos lui dit « il ne faut pas se mettre la tête dans le sable ». Est-ce que l'écart persiste? Oui. Est-ce qu'on veut qu'il persiste? Non. Mais on ne veut pas que les filles soient moins bonnes, on veut que les garçons soient meilleurs. Ouais. C'est ça le but.
Mais c'est pas rabaisser l'un voilà. pour eux, c'est l'autre.
Alors, ce qu'il propose, premièrement, une intervention précoce et du dépistage dès le début du primaire. Dès l'entrée à l'école, c'est important d'intervenir tôt afin d'éviter que les élèves ne prennent du retard. Deuxièmement, développer le goût de la lecture chez les garçons. Aimer plonger le nez dans un livre peut prévenir le décrochage scolaire. Troisièmement, savoir gérer les troubles de comportement, parce qu'une bonne gestion de classe peut diminuer les troubles de comportement qui peuvent mener à l'abandon scolaire. Moi, j'ajoute que, en pénurie d'enseignants qu'on vit actuellement, quand on engage des gens qui ne sont pas formés en pédagogie, la gestion de classe prend le bord. Alors, on contribue à créer un problème ici. Fermons cette parenthèse. Quatrième solution, organiser des activités parascolaires pour tous. On en parlait tantôt.
Ouais.
L'importance de participer à des activités à l'école en dehors de la classe, ça diminue les risques d'abandon. Cinquièmement, des tuteurs et des mentors au secondaire, parce qu'un lien de confiance avec un adulte à l'école peut faire toute une différence. Sixièmement, organiser l'école en fonction des intérêts des élèves, regrouper les élèves selon leurs intérêts, leur enseigner en s'adaptant à cette réalité. Ensuite, découvrir des métiers et des professions sur les bancs d'école, parce que donner un sens aux études, ça se fait en misant sur des projets d'avenir. Adapter davantage l'école aux garçons, faire bouger les élèves,
oui.
Apprentissage par des projets concrets, nouvelles technologies, autant de façons d'adapter l'école aux besoins et aux intérêts des gars. Neuvièmement, à augmenter les modèles masculins dans le réseau scolaire. On ne le dira jamais assez parce que...
Mais comment on fait ça, Marie?
On va les chercher.
on les attrape au lasso.
Ben, on rend la profession plus attrayante.
Oui.
Déjà, ça serait quelque chose. Ça permettrait de convaincre les garçons que l'éducation, c'est pas juste une affaire de filles.
Mm-hmm.
Et je termine la 10e solution. Renforcer le rôle de père dans l'éducation de leurs enfants. Le rôle des pères, parce que des papas qui s'impliquent davantage à l'école, ça peut avoir une influence politique. C'est un beau lapsus.
Oui, politique oui, ou positif?
En fait, c'est positif le mot que j'aurais dû dire.
Mais, on a, oui.
Mais on va demander aux politiques.
Alors, j'espère que ça va s'inviter dans le débat
de ce
soir.
Dans la période actuelle, oui, c'est ça.
Alors, Daphné Dionvien qui a publié ce texte-là dans le Journal de Québec le 1er septembre.
Et le Journal de Montréal, je pense aussi.
Oui,
hein,
je
Marie?
Pense, oui. Oui.
Et on peut, j'imagine, aller aux archives
tout
pour
à fait.
Récupérer toutes ces belles informations.
Oui.
Alors moi, je vous amène dans un univers totalement différent. En fait, on s'en va sur la Lune.
Ah ben oui, hein? On veut bien y aller.
C'est un article de Mélissa Guillemette pour la revue Québec Science de septembre 2018.
Donc on s'en va sur la Lune et non pas dans la Lune.
Ah non, c'est ça, sur la Lune.
Et
en
on
fait,
ne va pas décrocher la Lune.
Non.
J'ai pris un côté de la Lune.
Oh, on s'en va vers la chanson.
Ah oui, pourquoi pas. Alors l'article s'intitule « Les faces cachées de la Lune ». Alors, on le sait, les astronautes, hein, ils sont déjà allés sur la Lune.
Mm-hmm.
Hein, on se rappelle, Neil Armstrong qui a mis... Hein,
le premier.
Le premier, d'ailleurs, il y a un film là, qui vient de sortir.
Oui.
Où on remet en vedette cet événement. Alors, on le sait, ils ont ramené des kilogrammes de roches, hein, 385 kilogrammes de roches. D'ailleurs, j'ai lu un article où on disait qu'on avait un petit oui. roche... au Centre
qu'on
des sciences.
Toucher.
Qu'on pouvait toucher, c'est ça, exactement, ce oui. qui est exceptionnel.
Et je fais une toute petite parenthèse parce oui. que dimanche prochain, dans l'émission Marie raconte,
oui.
je raconte l'histoire d'une petite souris qui est allée sur la Lune ah. avant Armstrong.
Ah oui! Ouais.
Il y a une souris qui est allée sur la Lune avant Armstrong.
Oui, tout à fait, et elle s'appelait Armstrong.
Wow! Oui. Alors, on le sait, la surface de la Lune équivaut à celle de l'Afrique.
Oui.
Et on a visité en fait de la Lune seulement 6 endroits et très brièvement pour jamais plus de 3 jours. Alors, et là on pense aux missions Apollo de 1969 à 1972. Alors, ce serait comme si on visitait l'Ontario à quelques reprises, puis on disait « Ah ben, je connais bien le Canada ».
Oui. Ouais, okay.
Voilà, c'est à peu près ce que l'on a fait. La Lune est notre plus proche voisine à l'échelle de l'univers. Elle est à 380 000 kilomètres et donc a encore bien des secrets à nous révéler. Et particulièrement, d'où le titre, sa face cachée. Alors, c'est ce côté qui ne se dévoile jamais à la Terre. Mais ses secrets, on pourrait peut-être nous les révéler, parce qu'après avoir délaissé un peu la Lune, on a fait toutes sortes d'excursions vers le Mars, etc. Les yeux sont à nouveau tournés vers elle, motivés en fait par l'entrée en piste de la Chine et de l'Inde. C'est sans compter des projets privés aussi. Alors, il y a des entreprises qui veulent aller sur la Lune le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Alors, outre les missions robotisées, il y a les agences spatiales de la Chine, la Russie, l'Europe et les États-Unis, ainsi que des entreprises qui pensent à des missions habitées cette fois. Alors, quelque part entre 2025 et 2030. Mmh. Parce que, on le sait, rien ne peut battre un observateur présent sur place. Hein? On voit ça de nos propres yeux pour pouvoir mieux analyser l'environnement. Alors, donc, on imagine déjà construire un village à la fois robotique et humain sur la Lune. Il y aurait des laboratoires pour travailler, des habitations pour vivre et des véhicules pour se déplacer. Alors, qu'est-ce que peut faire le Canada dans ce contexte-là? Bon, on a l'Agence spatiale canadienne qui espère se tailler une petite place, pas avec des lanceurs, des fusées qu'on envoie sur la Lune, on n'a pas cette expertise-là, mais en travaillant avec les partenaires internationaux. Et surtout, sa première contribution, ben, ce serait de fournir, encore une fois,
le bras.
Ça va nous coûter un bras encore.
C'est ça, un bras pour robotique, parce que ce serait semble-t-il, l'étape initiale du retour vers la Lune. Mais on peut aussi peut-être contribuer avec d'autres solutions technologiques. Les rovers, en fait, c'est des petits véhicules qui vont se promener, et les télécommunications spatiales, semble-t-il, qu'on peut contribuer sur ce plan-là. Évidemment, tous ces efforts dirigés vers le plus poétique des cailloux n'ont pas seulement la science comme but. Mmh. On s'en doute, il y a des raisons économiques et des raisons politiques. Politiques, ben, on cherche encore à conquérir l'univers. Alors, bon, si on revient sur le plan scientifique, qu'est-ce que la Lune a encore à nous apprendre? Eh bien, on sait que c'est une... La Lune est d'origine volcanique et semble-t-il qu'il y a des petits endroits sur la Lune qui valent vraiment la peine d'être encore explorés. Et on nous invite à googler le mot INA, I-N-A. C'est une petite structure d'origine volcanique. Les images qui sont captées par le Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, un instrument pour lequel... qui nous permettent de voir en fait très précisément ce qui se passe sur la Lune, montre une zone de 1,9 km sur 2,9 km au motif irrégulier. Alors, tu parlais d'une petite souris tout à l'heure, Marie, mais ça a l'air d'un super gruyère.
Ah oui,
c'est ça. Et on se rend compte, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'il semblerait que ça existe depuis moins de 100 millions d'années, alors qu'on sait que la Lune a plus de 1 milliard d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'exploration de la Lune pourrait peut-être nous permettre de répondre à cette question et de mieux comprendre aussi la formation de la Terre. Retourner sur la Lune, c'est aussi essentiel pour, comme je le disais, fondamentale pour comprendre aussi l'histoire du système solaire dont la Terre est un bijou d'archivage, semble-t-il. Alors, la théorie la plus souvent acceptée par la communauté scientifique veut que la Lune se soit formée à la suite d'une collision entre la Terre et un objet de la taille de Mars quelques 100 millions d'années après la formation du système solaire. Alors, en retournant sur la Lune, peut-être qu'on arrivera à trouver ces réponses. C'était donc un article de Mme Guillemette pour la revue Québec Science de septembre 2018. Mmh. Alors, Marie, une petite brève qui concerne...
Le décrochage. Ah, oui, je vous parlais des statistiques tout à l'heure. Oui. Je vous disais que c'est au Québec que l'écart entre le taux de diplomation des garçons et des filles est le plus grand, selon un rapport d'Institut du Québec. Donc, après 5 ans, les filles ont un taux de diplomation de 73 % les garçons 62 mm-hmm. Et après 7 ans, parce que parfois on prolonge les études, les filles obtiennent 84 % et les garçons 76 %. Par contre, la situation s'est améliorée depuis 10 ans, disons-le, quand même.
Donc, ça devait être très mauvais à ce moment-là.
Oui.
Alors, Yvan, je pense qu'on va sur de nouveaux sentiers.
Oui, j'avais commencé la semaine dernière à vous parler de sentiers à découvrir pour la période de l'automne. Alors, je vous amène maintenant au Club plein air Saint-Donat. Vous avez le choix entre le Mont Sourire à 490 mètres, le Mont Waro à 692 mètres et la Montagne Grise à 773 mètres ou encore la Montagne Noire à 892 mètres. Vous faites votre choix de sommet pour accéder à une vue somptueuse sur l'apogée de la nature lanaudoise en automne. Les sentiers sont tous accessibles gratuitement à un jet de pierre du village de Saint-Donat.
Donc on choisit par la couleur?
Ou la hauteur.
Ou la hauteur, c'est ça. Alors moi, je vais vous dire, est-ce que les femmes seraient bioniques?
Bien, il y en a une, en tout cas. Elle a fait l'objet d'une émission de télé.
Oui, c'est vrai.
Je préfère ne pas répondre à ça.
Alors, c'est un petit clin d'œil à Yvan, qui nous parle toujours d'activité physique. Alors, il semblerait que les femmes sont moins fatiguées sur le plan musculaire après une course d'endurance, selon les données recueillies lors d'une étude réalisée après l'Ultra Trail du Mont-Blanc, rien de moins, une course de 166 km dans les Alpes françaises. Alors, les femmes sont soit plus résistantes à la fatigue, fatigue, soit elles gèrent mieux leur niveau de fatigue que les hommes. Alors, les études vont nous en révéler dans un futur proche. Alors, un petit mot, peut-être,
oui,
Marie?
La définition du mot chauve, selon Cassandra, qui a 8 ans, c'est la coiffure des vieux messieurs.
Ou coiffure qui laisse à désirer. Alors, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à Marie, merci à Yvan, merci à Maurice.
Merci Monique.
Et on se retrouve bien la semaine prochaine, même heure, même poste, pour les Voix de service magazine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.